EMCI TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour à tous et à toutes. Alors, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission où je suis accompagnée de Nadine. Aurélie et Laure sont parties, je ne sais où, mais en tout cas, elles ne sont pas avec nous cette semaine. Mm-hmm. Mais c'est une belle semaine, on passe une bonne semaine ensemble, Nadine,
mais
je trouve.
On papote comme deux mamans.
C'est ça. Bon, on balance pas tous les dossiers quand même, parce que nos enfants, on veut quand même préserver nos enfants. C'est ça, tu es maman, tu as trois enfants, 19 ans, 16 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Des grands-enfants. Moi, j'ai une fille, elle a 17 ans, donc on a quand même des assez grands-enfants, mais qui ont été plus jeunes. Et je crois que toute cette série a pu vous parler si vous avez des enfants plus jeunes ou plus âgés. Et comme on l'a dit, eh bien, le parcours de parents, c'est un parcours qui évolue constamment parce que les enfants évoluent, parce que nous sommes en constant apprentissage en tant que maman. Et c'est ce qui vient, c'est ce qui nous pousse aussi à nous remettre beaucoup en question, quelquefois à se demander, mais suis une bonne mère? Et c'est pour ça que on a donné ce titre à cette émission, suis-je une bonne mère? Je crois qu'il y en a plusieurs d'entre vous, vous êtes déjà posé la question, et souvent avec un sentiment plus de condamnation, plus de est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Et autant je trouve ça formidable, Nadine, qu'aujourd'hui on puisse avoir accès à différentes émissions chrétiennes. On a fait quand même pas mal d'émissions sur l'éducation dans Parole de femme, on en a fait aussi dans Bonjour chez vous. Je trouve que c'est des sujets qui sont hyper importants en tant que femme chrétienne, parce que on a Dieu a un avis sur l'éducation. Maintenant, c'est un peu comme sur le mariage. Il y a tellement de choses aussi que ça peut être submergent. Et puis, ça peut, au lieu de nous aider, ça vient nous accabler et nous dire « Mais est-ce que je suis en train de faire la bonne chose ?» Tellement j'ai reçu d'informations et on a du mal à se fier quelquefois à notre instinct, à innover, à initier, parce qu'on se dit oh, « Mais ça, c'est parce qu'elles font, c'est parce qu'elles ont dit. » Et puis, les réseaux aussi viennent véhiculer tout un modèle d'éducation sans dire je suis en train de faire un enseignement sur l'éducation, mais parce que je suis en train de poster telle et telle photo, telle et telle story dans un quotidien de famille, ça véhicule un certain système d'éducation qui constamment nous fait nous demander est-ce que moi je fais la bonne chose. Et quelquefois c'est vrai que ça fait peur de se demander est-ce que je fais la bonne chose. J'ai pas envie d'élever des enfants qui vont être complètement déséquilibrés, des enfants qui vont être malheureux ou qui vont devoir faire un suivi pastoral pendant 10 ans parce que je les ai mal élevés, parce que je les ai blessés, etc. Mais je crois qu'il y a un équilibre quand même entre la remise en question et puis une remise en question qui est saine, et cette remise en question qui suscite de la condamnation, qui suscite de la peur et qui au final ne nous aide pas à devenir une meilleure mère.
Et tu as fait le bon exemple de faire le parallèle avec le mariage. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, tu peux te demander est-ce que je fais la bonne chose, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que j'ai choisi la bonne personne. Mais je crois que c'est un peu la même chose par rapport aussi aux enfants, dans le sens où, comme pour le mariage, il y a des principes qui sont des principes de base pour tout le monde, mais après, chaque couple est différent. Et parce que vous êtes unique, donc la façon dont vous allez vivre votre amour va être unique aussi. Et les choses qui vont fonctionner pour vous peuvent fonctionner pour vous et ne pas fonctionner pour le couple à côté. Mais ça peut être des bonnes choses, en fait. Et c'est la même chose aussi pour les enfants. Je l'ai dit cette semaine que moi, j'ai trois enfants et mes trois enfants sont différents. Ils ont des choses similaires, évidemment, parce qu'on est tous dans le même milieu, mais chaque personne est différente. Et ça veut dire que ma façon à moi d'éduquer mes enfants, ce qui va fonctionner avec, même avec l'un, ne fonctionnera pas avec l'autre. Et donc, du coup, pour plus forte raison, ce qui va fonctionner pour notre famille ne fonctionnera pas pour une autre famille. Mais des principes de base qui sont comme ce qu'on a parlé par rapport à la foi, par rapport à être un bon exemple, etc., par rapport à prier pour nos enfants, les encourager eux-mêmes à avoir une vie avec Dieu, ça, c'est des principes de base qui vont être les mêmes pour tout le monde. Puis après, maintenant, dans le quotidien, il y a des choses aussi qu'on va faire qui va différer, et on va parler même plus tard dans la semaine. Des fois aussi, le bagage qu'on a reçu, l'éducation qu'on a reçue va transparaître aussi par rapport à la façon dont on éduque nos enfants. Donc, chaque famille est différente. Mais la question, suis-je une bonne mère? Je crois que si on est honnête, nous sommes tous posés cette question. Nous sommes tous posés cette question, soit quand l'enfant était petit, est-ce que je fais les bonnes choses parce que je vois les autres comment ils font? Soit quand, en grandissant, Est-ce que ça va bien donner? Est-ce que je ne vais pas les rater? Est-ce que, quand ils seront des adultes, ils n'auront pas des choses à me reprocher, etc.? Et Probablement. Écoute, on ne fait pas tout parfaitement. Il y aura peut-être, moi j'espère en tout cas qu'ils auront, ils seront reconnaissants de ce, que, de ce qu'on leur a donné, c'est vrai, parce qu'ils auront un cœur reconnaissant, parce que c'est une question de cœur. Hein. Des fois, tu peux avoir eu un parent qui était moins parfait, mais tu reconnais qu'il a fait le meilleur qu'il pouvait, avec la sagesse qu'il avait, avec les outils qu'il avait, il a fait du mieux qu'il a pu, et puis voilà, et toi tu améliores. Donc se poser la question, ça arrive à tout le monde. Moi, je me suis posé la question quand je courais et je travaillais. Et puis voilà, il y avait des activités à faire à l'école. Et puis, maman, il faut amener des biscuits. Ah ben, je ne vais pas faire les biscuits. On va à l'épicerie acheter les biscuits. Et il y avait d'autres mamans qui faisaient les biscuits, qui roulaient la pâte, etc. Moi, j'achetais les biscuits. Bon, c'était deux personnes différentes. Est-ce que je suis une bonne mère en me disant, mais elle fait les biscuits maison. Moi, je les ai achetés au magasin. Hein.
Donc. Je me suis déjà même raconté dans Parole de femme. Ouais. Mais pareil, l'histoire, le petit déjeuner, chaque enfant doit ramener. Et moi, dans la liste des choses à ramener, c'était les biscuits. Et je me sentais un peu mal, tu vois, surtout que on venait d'arriver au Québec et puis je trouvais que les mamans étaient mais des mamans en puissance. Elles faisaient toutes des muffins, elles faisaient des activités et tout. Je me dis wow. Et là, bah qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des biscuits, mais je les ai enlevés de leur emballage. J'ai un petit peu écrasé. Je les ai mis dans un sac.
T'as mis un peu de farine sur Eden pour dire en mode, on les a fait ce matin.
Je les ai mis dans un sac. Je dis, ramène les biscuits de ta maman. Mais tu sais, à quelle fois on fait des trucs tellement débiles. Mm-hmm. Je me dis, mais ça changeait quoi, franchement? Je suis allée au magasin, je les ai achetés de mon argent, j'ai payé, j'ai pris des bons biscuits. Mm-hmm. Mais tu vois, à cause d'une espèce de pression sociale, de moi, l'image que j'avais d'une bonne maman, c'est une maman qui fait elle-même ses biscuits pour le petit déjeuner de l'école. Mm-hmm. Bah, tu vois, je me retrouve à faire ce genre de choses trop débiles, à faire semblant que j'ai fait des biscuits.
Mais c'est tellement, ça, c'est un petit exemple, mais c'est tellement vrai, en fait. Parce qu'on va se comparer, peut-être pour une histoire de biscuits comme ça, une activité à l'école, mais par rapport à comment les enfants s'habillent. Il y a des mamans qui elles habillent leurs enfants, tu as l'impression qu'ils sortent d'un magazine, toi, tellement tout est coordonné, etc. Il y en a d'autres, ce n'est pas leur force. Mais pour dire que chaque personne est différente, tant que moi, je crois qu'un élément clé pour savoir si je suis une bonne maman, est-ce que j'aime mes enfants? Est-ce que mes enfants savent, se sentent aimés de moi? Je crois que c'est quelque chose de tellement important. Après, on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous la même poche, on n'a pas tous les mêmes aptitudes, mais ça, c'est quelque chose universel. Nos enfants doivent se sentir aimés de nous, on doit aimer nos enfants. Si je sais que j'aime mes enfants, je donne le meilleur que je peux avec ce que j'ai, parce que moi aussi, je suis en train d'évoluer. Peut-être il y en a qui sont devenus mamans à 20 ans. À 20 ans, tu n'as pas la même sagesse que si tu es devenue maman à 35 ans. Mm-hmm. Donc, tu n'as pas les mêmes ressources, etc. Donc, je veux dire, chacun devient maman à un certain âge, mais de dire, est-ce que j'aime mes enfants? Moi, aujourd'hui, j'ai 41 ans. Je sais que ma mère m'aime. Et je crois qu'après de savoir est-ce qu'elle m'a acheté tous les vêtements, est-ce qu'elle m'a amené à toutes les activités, est-ce que voilà, elle était toujours disponible, peut-être pas, mais je sais qu'elle m'aime. Et donc du coup, ça, c'est resté l'empreinte qui m'a suivie, voilà, à mon âge adulte. Je ne me rappelle pas de toutes les journées de mon enfance, mais je me rappelle de ce sentiment-là. Et ce sentiment fait qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, je peux encore avoir une relation avec elle. Donc je crois qu'aussi en tant que maman, des fois, pour une maman, si tu te mets la pression parce que tu n'as pas fait les biscuits, tu es allée les acheter, mais dis-toi, est-ce que ton enfant sait que tu l'aimes? Et si tu sais que ton enfant, tu sais donner à ton enfant cet amour-là et ton enfant sait que tu l'aimes, c'est déjà ça. T'as déjà gagné, entre guillemets. Ne te mets pas de pression à aller dans des détails, à te comparer à une autre maman. Peut-être tu regardes une autre maman qui, elle, a fait les biscuits et elle te regarde comme étant une femme qui travaille, qui donne un exemple à ses enfants d'une femme professionnelle. Donc, tu sais, des fois, dans la vie, on peut s'envier les uns les autres, tu vois. T'envies la maman qui est à la maison, la maman à la maison envie la maman qui travaille, etc. Donc, de dire, enlevons cette comparaison. Non, la seule comparaison qu'on doit avoir, c'est par rapport à nous-mêmes. Est-ce que je suis mieux que la saison précédente? Parce que quand j'étais petit, j'étais peut-être plus à fleur de peau, mais maintenant, j'ai grandi dans ma patience, etc. Est-ce que je me suis améliorée moi-même? Ça va vraiment pouvoir nous aider.
Et on doit apprendre à se pardonner aussi. Être une bonne mère, c'est pas être une mère parfaite, c'est être une mère qui va faire des erreurs, mais qui va apprendre aussi de ses erreurs, qui va pas rester coincée à cause de la condamnation ou à cause de la peur. Et c'est quelque chose qu'on répète constamment, il n'y a pas de mère parfaite, et c'est comme oui je le sais, mais au final je crois que c'est la source pour beaucoup, c'est ce désir secret d'être une mère parfaite, de redouter l'erreur, de mon erreur en tant tant que mère. Qu'est-ce que ça va produire dans la vie de mes enfants? Est-ce que demain, il va devenir un délinquant à cause de ça? Et puis du coup, plutôt que de se nourrir de la foi, eh bien, on va commencer à devenir une mère dans la crainte parce que on veut fonctionner dans un système qui est inatteignable. Être une mère parfaite, c'est un système qui ne va rien générer de bon. Être une bonne maman, c'est quelqu'un qui se dit déjà de base, je vais me tromper, je vais faire des erreurs. Et moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune maman, j'avais déjà entendu, on ne peut pas être une mère parfaite, etc. Je savais, c'est comme, je le sais, je sais qu'on ne peut pas être parfaite. Je le sais, ce n'est pas peine de me le dire, de le redire et de le dire dans toutes vos émissions, etc. Mais en fait, à un moment donné, dans ma façon de réagir, dans ma façon de penser, etc., je me dis, mais c'est quoi la racine? C'est que, tu vois, je veux être parfaite et je redoute mes erreurs à moi. J'essaye d'éviter mes erreurs à moi. Et du coup, c'est ce qui me... tout de suite ce qui me pénalise et c'est comme ça que je me condamne vite, c'est comme ça que je manque de grâce et tu réalises que c'est à toi que tu dois d'abord pardonner et que la grâce que tu t'accordes, c'est la grâce que tu vas aussi apporter à tes enfants parce que quand tu es tellement dur avec toi-même, tu as déjà tellement donné, tu t'es mis un standard hyper élevé et que tes enfants n'atteignent pas le standard, il n'y a pas le retour que tu attendais, la réponse que tu attendais, en fait tu es hyper déçu, tu es vraiment déçu. On reparle des biscuits ou je sais pas quoi, tu veux faire un super gâteau d'anniversaire à ton enfant ou une super fête d'anniversaire, mais en fait, tu es en mode je fais, moi, la maman, je fais une fête d'anniversaire.
Fête.
Ouais, c'est ça. C'est comme, me dérange pas, la préparation, c'est juste du stress, tu cries sur tes enfants, et puis tout doit être parfait, bougez pas, les photos, les machins, etc. Et en fait, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'a motivée, franchement? Qu'est-ce qui fait que j'ai fait cette fête de cette façon-là? Ben, j'ai cherché la perfection dans le gâteau, dans la déco, dans ceci, dans cela, et puis au final, ça se trouve, les enfants ne se sont pas super amusés. Toi, tu t'es stressée. Tu pensais juste aux autres parents. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Blablabla, etc. Et c'est de se dire, encore une fois, je ne suis pas parfaite. Et ce que les autres font qui me semble génial, qui me semble parfait, un, je ne sais pas à quel prix ils ont réussi à faire ça. Et deux, si ce n'est pas mon truc à moi, ce n'est pas grave. Moi, je détestais les fêtes d'enfants chez moi, dans ma maison, parce que je trouvais que c'était le carnage, une fête d'enfants. C'est des bonbons, du gâteau, des enfants complètement surexcités qui, c'est la catastrophe. Et je dis, ok, parfait, on oublie les fêtes d'enfants. Moi, ma fille, elle est née au mois d'août. Où pouvons-nous aller à l'extérieur? Où pouvons-nous aller? Et je vais te dire, j'ai redoublé de créativité pour faire des fêtes à l'extérieur. Et au moment où j'ai fait, moi, je faisais les fêtes à l'extérieur, il n'y en avait pas tant qui faisaient des fêtes à l'extérieur parce que on était encore dans le mode fête à la maison, machin, etc. Et moi, en fait, là, à un moment donné, j'ai assumé. Je déteste les fêtes d'enfants dans ma maison. Ça gâche le moment, ça gâche la fête, ça gâche la fête de ma fille. Je vais faire une fête à l'extérieur. Pensez ce que vous voulez de moi, c'est ce que je veux faire. Et puis finalement, c'est devenu une grande mode. Pas grâce à moi, mais...
Avant-gardiste, attention. Redonnons le crédit à la Sourdine. Mais tu sais, moi, quand mes enfants étaient petits, en fait, moi, c'était un peu différent parce que je savais que je n'allais pas être parfait et ce n'était pas mon but. Mon but, c'était de me dire, je dois m'adapter à mon enfant, dans le sens où c'est quoi le ressenti de mon enfant par rapport à moi. Et ça, c'est important parce que des fois, on se compare à d'autres parents par rapport à eux et leurs enfants. Donc, du coup, elle fait ça parce que c'est ça qui marche pour son enfant à elle. Mais moi, franchement, dès qu'ils étaient petits, peut-être parce que j'en ai plusieurs, mais c'est comme si je reconnaissais l'unicité de chaque. Ouais. Et donc, du coup, je me dis, c'est quoi le ressenti que lui va avoir envers moi? Et donc, je dois travailler en sorte que j'ai une relation particulière. J'ai une relation particulière avec Gabriel. La relation que j'ai avec Gabriel, c'est pas la même relation que j'ai avec son frère, c'est pas la même relation que j'ai avec sa sœur. Et du coup, c'est comme un couloir, tu vois, que j'ai avec chaque enfant. Et c'était ça qui me préoccupait, tu vois. Après, j'avais une réalité qui était différente. À un moment donné, j'allais aux études. À un moment donné, j'étais au travail, etc. Mais de me dire, je prends le temps avec chacun. Et je crois que lorsqu'on enlève cette pression-là, moi, je disais, tu sais, j'ai pas un enfant de 30 ans caché quelque part que j'ai dit, voici, j'ai réussi, regarde, je fais ça parce que j'ai déjà fait avant. Non, on apprend. J'apprends autant que mon mari apprend. Je veux dire, on n'a jamais eu un enfant de 19 ans.
C'est ça.
Donc, ça veut dire que, on n'a jamais eu un enfant de 25. On est en train d'apprendre. Et je crois qu'en se donnant cette grâce de dire qu'on est en train d'apprendre, et même si aujourd'hui, Alicia, elle a 19, mais quand Sean, il aura 19 ans, il ne sera pas le même parce qu'il est différent. Donc, de toute façon, ce sera toujours un apprentissage, c'est sûr, avec des bases, mais n'empêche que ce sera quelque chose de nouveau. Et donc, je crois que se donner cette grâce-là, de dire l'important, c'est le ressenti que mon enfant va avoir. Je ne suis pas en train de lui donner une éducation calquée sur un modèle de mes parents ou de la voisine ou de ceci. Je suis en train de répondre à son besoin. Et des fois, j'ai vu que ma voisine, elle a acheté un grand cadeau à mon enfant. Mais peut-être mon enfant, il n'a pas besoin d'un cadeau. Il a besoin que maman s'assoie avec lui, qu'elle écoute son histoire, qu'elle partage avec lui. Donc, c'est un peu ça. Des fois, prenons le temps de s'asseoir. Des fois, on n'a pas besoin d'acheter 1 million de choses. L'enfant, il a juste besoin de nous, en fait, d'un partage, d'un temps personnel avec nous. Et donc ça, ça va vraiment nous déculpabiliser. Parce que souvent, en tant que femme, quand on se culpabilise, c'est parce qu'on se culpabilise des choses. Mm-hmm. Que je n'ai pas acheté telle chose, que je n'ai pas voilà, offert le dernier cadeau, que je n'ai pas fait le meilleur repas, que je n'ai pas nanana. C'est toujours de je n'ai pas. Mais si on est en train de dire, Seigneur, si tu m'as choisi, c'est parce que tu savais que j'étais capable. Si tu as mis cet enfant devant moi, et des fois, en parlant avec notre enfant nous rassure qu'il est bien, tu vois. Ouais. Moi, je me rappelle, je pense que j'ai déjà raconté cette histoire, mais je me rappelle, quand j'ai pas grand souvenir de quand j'étais plus jeune, mais je me rappelle un moment particulier, on avait eu un repas à la maison, et c'était le meilleur repas. C'est comme si, je sais pas, c'était le meilleur repas du monde. Mais après, à l'âge adulte, ma mère, elle a refait le même repas. Et c'était du poulet. Tu vois ? Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, l'ambiance, le fait que de savoir qu'elle était là, son amour, tu vois, la musique qu'il y avait là, tu sais, l'atmosphère de la maison, c'est ça qui rendait ce repas le meilleur repas. Donc, en tant que maman, de se dire, des fois, vous vous culpabilisez, que vous n'êtes pas cordon bleu, mais votre sauce, plus ou moins, là, votre enfant, il aime ça parce que c'est votre sauce, parce que c'est vous, sa maman. Et ça, ça va déjà nous déculpabiliser en nous disant, on est toutes des bonnes mamans, en fait.
Et c'est de pas non plus limiter le rôle de maman à des rôles pour les besoins. En fait partie, ouais. Mais oui, on doit nourrir nos enfants, on doit les vêtir, on doit les amener à l'école ou à des activités. Mais comme tu disais, c'est aussi, on a un rôle qui est très particulier, c'est de pouvoir les aimer et de pouvoir remplir leur réservoir affectif. Et ça, c'est à nous, en tant que parents, de le faire. Et c'est Nadine a commencé mission comme ça, et je crois que si on doit retenir une chose de cette mission, une bonne mère, c'est une mère qui sait aimer, qui sait tout simplement aimer, et le reste va venir naturellement, mais en tout cas le reste va venir après. Et de toujours vouloir s'occuper de tout ce qui est pratique, de tout ce qui est organisation, en fait c'est pas ça qui construit l'enfant. Il en a besoin, mais c'est pas que ça. J'en ai déjà parlé, mais il y avait une étude de fait dans un orphelinat où il y a des enfants à qui on donnait juste à manger, on les changeait et on leur donnait à manger, et c'est une étude hyper cruelle, et c'était dans les pays de l'Est, il me semble. Et en fait, on ne les prenait pas dans les bras. Et on ne leur parlait pas. On ne leur démontrait aucune manifestation d'amour. Mais juste, tu répondais à leurs besoins de base, la nourriture et l'échanger. Et en fait, c'est des enfants qui ont développé des carences, des enfants qui ont développé des maladies, qui ont développé des déficiences mentales, etc. Parce qu'ils n'ont pas eu... Ils n'ont pas ressenti cet amour. Et en tant que maman, on a cet accès auprès de nos enfants, de pouvoir les prendre dans nos bras, de pouvoir les accompagner jusqu'au coucher. C'est pas la voisine qui doit coucher les enfants, c'est pas la maîtresse d'école. Ça veut pas dire que tous les jours, etc., même si on peut les faire garder, etc., mais que de façon normale, c'est nous qui levons et qui couchons nos enfants. C'est nous qui sommes là dans le quotidien. C'est nous qui sommes là quand il y a eu un petit bobo, quand il y a eu une dispute, quand il y a eu quelque chose qui leur a fait de la peine, et on est là pour pouvoir les consoler, on est là aussi pour pouvoir les aimer, pour pouvoir leur dire des choses gentilles. Puis tu parlais de tes garçons, mais tu vois, à 15 ans, c'est pas tout le monde qui peut aller vers un garçon de 15 ans. Moi, j'irais pas vers tes fils, puis leur dire des petits trucs, oh, tu es mignon, puis et bon, ils vont dire, ok, c'est bon, je peux tenter l'expérience. Mais en tant que maman, on a encore cet accès-là, et puis c'est important de nourrir le lien, même si quelquefois, oui, il y a des périodes, il y en a des enfants qui sont un peu moins câlins, mais c'est de ne pas se laisser, de ne pas prendre ça comme une fatalité, de se dire, en tant que maman, même particulièrement les garçons, tu sais, je vais continuer de les aimer, je vais continuer de leur faire des câlins, leur faire des bisous, je vais m'adapter, c'est sûr, je ne vais pas les les porter dans mes bras, etc. Mais garder ce lien, parce que c'est aussi quelquefois on peut minimiser, mais le fait de remplir leur réservoir affectif, et notamment si vous avez des enfants aussi qui sont assez tactiles, qui aiment les câlins, etc. Bah ça va leur éviter de d'aller se faire des câlins ailleurs par d'autres personnes, par dans des histoires de filles, de garçons, de copinage, etc. Donc de pouvoir remplir, les aimer, qu'ils se sentent aimés, qu'ils se sentent comblés alors qu'ils sont avec vous, alors qu'ils sont dans la maison, ils n'auront pas ce désir d'aller chercher ailleurs, oui, dans des relations toxiques, dans des relations prématurées, dans des relations exclusives ou fusionnelles qui au final vont les nourrir mais vont aussi les détruire. Mmh. Et c'est aussi notre rôle en tant que parents de remplir ce réservoir affectif. On a déjà parlé des langages de l'amour, on en a fait toute une semaine, mais on a 5 langages de l'amour. On a le toucher, donc tout ce qui est câlin, les services, rendre service. Bon, quelquefois, ce n'est pas leur langage d'amour, mais ils aiment bien qu'on leur rende service. Mais bon, faites attention, ce n'est pas forcément leur langage d'amour. Les paroles valorisantes, d'affirmation, encourageantes, de dire à quelqu'un, de dire à nos enfants, t'es beau, t'es belle, t'es intelligent. Et quelquefois, c'est des choses que tu n'entends pas. Tu ne l'entends pas en dehors de chez toi parce que personne ne va te le dire. On a quoi sinon ? Les moments de qualité et le dernier, les cadeaux. Donc les cadeaux, c'est pas forcément des cadeaux chers, c'est des cadeaux, des petites attentions et qui sont pas là pour remplacer, pour venir combler l'absence, etc. C'est vraiment parce que c'est quelque chose qui touche votre enfant et qui lui fait particulièrement plaisir et qu'il se sent aimé de vous à ce moment-là. Et je vous encourage à pouvoir savoir avec le Saint-Esprit, c'est quoi le langage d'amour de mon enfant pour que je puisse l'aimer d'une façon où il va se sentir aimé. Et peut-être que c'est pas votre langage à vous et que vous êtes beaucoup dans les services avec lui, mais que votre enfant, bah, c'est peut-être un moment de qualité dont il a besoin et vous voyez qu'en l'amenant à son activité, bah, c'est ce moment-là, vous sentez que ça lui fait du bien, ce moment de voiture où vous êtes que tous les deux, c'est ça qui lui fait du bien, bah, c'est d'être intentionnel du coup sur ces moments de qualité qu'on va pouvoir passer ensemble.
Gary Chapman a écrit justement un livre des langages d'amour pour les enfants, donc c'est adapté aussi par rapport à savoir comment est-ce qu'on discerne par rapport à notre enfant. Et je voulais juste rajouter aussi, quand on le dit dans la société, qu'on est maman pour la vie. Et tu sais, par rapport à l'affection que tu disais tout à l'heure, par rapport aux enfants, il faut être aussi intentionnel par rapport à ça. Il faut rester maman. Tu sais, je veux dire, des fois, quand ton enfant va grandir, à un moment donné, c'est comme s'il veut t'amener à être amie, tu vois. Il faut quand même savoir qu'à un moment donné, oui, je suis son amie, mais à un moment donné, je reste quand même son parent. Et je dis ça pourquoi ? Parce que moi, je me rappelle quand mes enfants, mes garçons avaient comme 12 ans, 11 ans par là, 11, 13 ans. Et c'est comme ils commençaient à grandir, tu vois. La voix change. Et tu vois, c'est comme tu viens pour leur faire un câlin, puis tu sens que c'est comme s'ils se raidissent un peu. Et je disais, t'es trop grand pour faire un câlin à ta maman. Et puis, et puis je faisais le câlin, tu vois, je forçais un petit peu. Mais après, c'est comme s'il y avait comme c'était une barrière qu'il fallait traverser, en fait. Parce que si je serais restée dans mon coin, ils auraient pris ça pour acquis. Et puis après, il y a des parents, après, à un moment donné, ton enfant, tu le touches même pas, en fait. Vous avez plus cette connexion-là. Mais parce que j'ai tenu, après, c'est eux maintenant. Mes enfants, ils sont grands. Hein, tu connais mes enfants. Ils sont grands. Mais c'est eux qui vont venir vers moi, ils vont me prendre dans les bras et tout. C'est tellement drôle parce qu'ils sont grands et ils sont devenus musclés. C'est trop bizarre. Mais en fait, c'est ça de dire, on reste maman, en fait, et aussi se trouver comment je veux garder le lien avec eux. Même si, oui, à l'adolescence, des fois, c'est vrai, ils se recherchent, et puis ils questionnent certaines choses, ils peuvent changer d'attitude, etc. Comment est-ce que je fais toujours pour le récupérer ? Et ça, c'est comme chaque parent le fait par rapport à son enfant. Donc, en tant que maman, on parle de, est-ce que je suis une bonne mère ? Si je mets... j'ai en priorité mes enfants. Si je cherche leur bien-être, si, comme je parle des langages d'amour, je cherche comment connecter avec leur cœur, s'ils se savent aimer de moi, c'est ça qui fait... c'est ça les critères, en fait, que je dois remplir. Ce n'est pas le nombre d'activités que j'ai fait, ce n'est pas le nombre de repas que j'ai fait, ce n'est pas toutes ces choses-là. Est-ce que moi, je suis capable d'être bien avec moi-même pour être bien avec eux et de les mettre en priorité, ils se sentent aimés de moi. Je crois que ça va vraiment aider. Et vraiment, si vous vous sentez que vous êtes une moins bonne parce que, justement, vous avez beaucoup marché dans la comparaison ou parce que vous êtes tellement consciente de vos propres failles parce que, vous avez peut-être un passé qui a été lourd, vous avez peut-être des blessures par rapport à votre passé, etc. Vous êtes devenue maman sans l'avoir prévu et du coup, vous avez du mal à vous ajuster. J'aimerais vraiment vous rassurer que si Dieu vous a donné ce merveilleux cadeau de vous donner un enfant, il est aussi capable de vous équiper pour vous en occuper. Que l'ennemi ne vous fasse pas croire ce mensonge que vous n'êtes pas une bonne maman, qui ne vous fasse pas croire le mensonge que vous allez répéter, voilà, les erreurs de vos parents, mais que vraiment que Dieu puisse vous remplir et vous donner le modèle à suivre. Dieu va dire à Moïse, hein, que je vais te donner le modèle. Il y avait un modèle avec que Moïse devait suivre par rapport au tabernacle. Il y a un modèle à suivre. Et Dieu peut vous donner, veut vous donner le modèle à suivre. J'avais dit hier que Dieu aime votre enfant plus que vous. Ça a l'air incroyable parce que vous aimez tellement votre enfant, mais Dieu l'aime plus que vous. Et si Dieu vous l'a confié, cet enfant-là, c'est que Dieu veut aussi vous équiper pour vous en occuper. Il y a un modèle à suivre par rapport à cet enfant. Dieu veut vous le donner. Ne marchez plus sous la condamnation, sous la comparaison de tout ce qu'on voit sur les réseaux, de la maman qui vient d'accoucher mais qui est toujours bien maquillée, bien habillée. Non, il y a des jours où on mange à midi, il y a des jours où on mange de la pizza, mais ça fait partie de la vie. Il faut accepter ces choses-là pour ne pas marcher dans cette condamnation. Donc, Seigneur, je viens te recommander ces femmes. Alors qu'on parle d'être une bonne maman, il y a sûrement des hommes qui regardent cette émission, mais il y a aussi des femmes. Je veux te recommander chaque parent qui se sent incapable, qui se sent inadéquat devant toute la charge que vient avec la parentalité. Oui, être un parent, c'est un cadeau, mais c'est aussi une responsabilité. Merci Seigneur, parce que maintenant tu enlèves le fardeau qu'elle portait, que cette femme portait, que cette maman portait, d'être parfaite, d'être au four et au moulin, d'être la cuisinière parfaite, d'être la maman parfaite. Merci Seigneur, parce que tu lui montres que le seul parfait, c'est toi, et qu'elle a en toi toute la force, toute la capacité, toute la sagesse, toute la douceur, tout l'amour qu'il faut pour être ce parent que tu l'as appelé à être. Seigneur, merci aussi pour des mamans qui vont se pardonner, pardonner des erreurs passées, pardonner la façon dont elles ont commencé les choses, mais se dire qu'il y a une grâce. Elles peuvent puiser dans ta grâce. Seigneur, en tant que maman, nous venons puiser dans la grâce, dans la faveur, dans le puits qui est sans fin, qui est de ton amour, pour pouvoir être rendu capable de s'occuper de ses enfants. Merci Seigneur pour tous les foyers que tu équipes. Merci pour les parents aussi qui vont se tenir par la main dans ce rôle d'éduquer les enfants. Ça ne se fait pas seul. Seigneur, je prie pour toutes les parents, que pour tous les parents qui puissent se tenir par la main pour l'éducation de leurs enfants. Et je prie pour toutes les femmes qui élèvent seules leurs enfants. Merci aussi parce que tu viens les encourager, les appuyer, les fortifier alors qu'elles portent cette lourde tâche d'élever leurs enfants seules, qu'elles sont en mesure de le faire. Oui Seigneur, tu nous rends capables. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et c'est toi, Jésus, qui nous fortifie. Que toute la gloire te revienne. Amen.
Amen. Amen. Et je voulais aussi dire ça, c'est que quelquefois, ce sont les enfants qui font la petite comparaison et qui peuvent dire « Ah, mais la mère de un tel fait ci, ah, ben, moi je préférais que tu sois comme elle, etc. » Et c'est des paroles qui peuvent être blessantes en tant que maman, mais rappelez-vous, ce sont des enfants. Alors oui, les paroles peuvent être blessantes, mais c'est pas le cœur de votre enfant. Et si vous dites à votre enfant bah, « Est-ce que tu veux changer de famille ? Est-ce que tu veux partir là-bas ? On peut faire ta valise. » Au final, votre enfant, il est très heureux avec vous, il vous aime, mais ce sont des enfants et ce sont des êtres intelligents qui savent comment, ils savent aussi les points faibles, ils savent aussi quelquefois comment avoir gain de cause. Ils peuvent savoir que c'est un argument choc. Ah, la mère d'un tel, elle fait ça. Et puis eux, ils ont trop de la chance parce que ceci, toi, t'es la plus, de toute manière, tout le monde dit que toi, t'es la plus sévère, que toi, tu veux jamais, etc. Et si votre enfant voit qu'il y a une porte d'entrée, aussi avec ce genre de paroles, avec la comparaison, bah, c'est quelque chose qu'il peut utiliser juste pour arriver à ses fins sans avoir conscience qu'il est en train de vous blesser. Alors soyez l'adulte aussi et remettez ça en perspective en vous disant c'est un enfant et il veut juste arriver à son objectif et c'est à moi en tant qu'adulte de faire la part des choses, de me fortifier dans mon identité et de comprendre que je ne peux pas laisser l'offense et que je ne peux pas non plus laisser ce système de comparaison venir me vaincre et venir me faire flancher. Si vous avez dit non à votre enfant, que vous croyez que c'est la bonne chose, bah même si les autres mamans ont dit oui, bah tant pis, c'est comme ça. Il est né dans votre famille et c'est comme ça, avec les décisions qui lui plaisent et les décisions qui lui plaisent moins. Mais c'est pas parce que votre enfant vous dit ce genre de choses que vous êtes une mauvaise mère. Et comme on l'a dit, eh bien, nous croyons que vous êtes une bien meilleure mère que tout ce que vous pouvez penser. Et nous voulons ensemble renoncer à ce mensonge. Et demain, on va se retrouver, Nadine, encore une fois, et on va parler de l'identité de nos enfants. Alors, à demain dans Parole de Femme.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.